unis à Christ. Vous en souvenez pour ceux qui étaient là? Oui. Unis à Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'appareil photo, mais je n'ai pas mes notes. Voilà. Donc, unis à Christ. On a parlé de cette question d'être vraiment le chrétien. Ce n'est pas juste quelqu'un qui tourne autour de l'Église, qui tourne autour d'une religion, qui a des valeurs chrétiennes. Le chrétien, c'est celui qui est profondément uni à Christ spirituellement. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu n'es pas uni spirituellement à Christ. C'est tout simplement, tu peux te dire religieux, dire voilà, j'accepte telle valeur, j'accepte telle doctrine, j'accepte telle chose, mais pour autant, ne pas vivre profondément la foi chrétienne. Mais Jésus, lui, nous a dit, écoutez les gars, il faut vivre les choses profondément parce que de là, eh bien, vous allez vivre les choses qui sont des choses spirituelles. Vous allez appeler les choses qui sont au ciel, sur la terre et vous allez avoir une vie différente. Est-ce que ça vous va? On a prié pour pas mal de personnes la semaine passée. J'espère que dans ces prières, vous avez pu tout simplement cette semaine essayer d'approfondir votre relation avec Dieu. Vous rapprocher de lui, vous dire peut-être j'étais à 200 mètres de lui, je le sentais, je le voyais lointain, je me suis rapproché de 100 mètres, 1 mètre, 2 mètres, jusqu'à faire un câlin à mon Jésus, à être passionné par lui, et puis tout simplement sentir ce qu'il sent, voir ce qu'il voit, c'est ça l'objectif du chrétien. C'est se mettre un petit peu de côté, même beaucoup, pour pouvoir accueillir la présence de Christ dans sa vie. C'est quand même profond. Donc on va reprendre pas mal de versets qu'on a pris la semaine passée, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc mon thème ce matin, c'est que j'ai constaté que beaucoup, effectivement, de chrétiens, de non-chrétiens, aujourd'hui, se tournent vers tout ce qui est développement personnel. Est-ce que vous avez vu ça? Sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. On développe nos pectoraux, on développe notre corps. On développe maintenant nos sentiments. Il y a toute une génération avant nous qui ne parlait pas de ses sentiments. On ne disait pas ce qu'on pensait, on ne disait pas ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. On cachait les choses. Et maintenant, on est dans une génération qui explose, qui exprime tout ce qu'elle a sur le cœur, qui exprime toutes sortes de choses. Et puis peut-être qu'en passant par là, je vais me sentir mieux. Alors, je suis d'accord, messieurs. Effectivement, vous devez apprendre à vous exprimer un peu plus, surtout envers vos femmes. Hein, on le sait, hein, les hommes, parfois, ils ont du mal à s'exprimer, exprimer leurs émotions. Donc, il y a une part de bonnes choses. On aime pouvoir mettre des mots sur notre ressenti. C'est important dans la communication, mais ce n'est pas un aboutissement en soi. Et ce que je vous ai dit la semaine passée, c'est que le meilleur livre de développement personnel, eh bien, c'est la Bible. Parce que Jésus te demande d'affronter les choses, de regarder les choses droit dans les yeux, de regarder ce qu'il y a au fond de toi. Il t'invite à toujours se calibrer par rapport à lui, à toutes ces valeurs chrétiennes, l'amour, la compassion, l'aide à autrui. Ces choses-là, ce n'est pas des choses qu'on a forcément de manière innée. Jésus te dit, ça fait partie de ton job. Et si tu n'y arrives pas, tu es face à une limite, moi, je peux t'aider. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où il y a une différence. Je parlais à quelqu'un cette semaine et je dis, tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on se développe, on arrive à une limite et face à cette limite, on a deux choix finalement. C'est est-ce que je fais machine arrière ou est-ce que je mets un programme en place pour dépasser mes limites? Donc c'est bien, mais c'est toujours passer par moi pour faire. Et la Bible, c'est pas ça. C'est remettre ma vie à Christ. Lui dire, écoute, je veux me conformer à ta pensée, je me rends compte que j'ai une limite, mais maintenant j'accueille tout simplement la capacité de faire les choses avec toi. Parce que je comprends que tout seul, eh bien, je vais faire des efforts, mais que je vais arriver à un palier que je ne vais pas pouvoir passer. C'est ce qu'on appelle la religion. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui avons la foi et qui croyons que Christ vit réellement en nous. Ça veut dire que quand j'arrive à ma limite, eh bien, je me dis, Seigneur, tu vois, j'ai du mal, la colère, c'est plus fort que moi, je suis incapable de passer au-dessus, c'est en moi, c'est attaché à ma chair, je vous avais parlé des choses de la chair, eh bien, Seigneur, je te remets les choses, je veux que tu prennes ta place dans ma vie et je vais faire un pas de foi. Et ce pas de foi-là, tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais qu'en faisant ce pas-là, tu laisses l'occasion à Dieu, non pas de t'améliorer, mais de te transformer. Le problème de la transformation, c'est que ça fait peur. Tu ne sais pas comment tu vas ressortir. Tu ne sais pas si... Tu ne peux pas projeter les choses. Mais Dieu te dit, t'inquiète pas, quand tu vas t'abandonner vraiment à moi, il y aura une transformation dans ton cœur. Et je constate que Aujourd'hui, très peu de chrétiens vivent la transformation. C'est toujours les mêmes problèmes. Et on me dit, Alexis, comment je dois faire? Comment je dois faire ceci? Comment je dois faire cela? Mais tu sais, moi, j'étais comme toi, j'étais face à Dieu et je ne savais pas comment faire. J'ai crié à mon père, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin que tu changes ma façon de penser, que tu m'ouvres les yeux. Et je vous ai parlé de ce voile dans le temple quand Jésus est mort. Le voile a été déchiré. Vous vous souvenez de ça? Et ça, ce n'est pas juste une parole comme ça mise dans un coin de la Bible. Le voile a été déchiré, on a lu ce verset, et on va le relire ensemble. Et c'était un des passages principaux de notre la semaine passée qu'on va relire. On va prendre Hébreux 10, versets 19 à 22, s'il vous plaît. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Pause. Là, j'ai déjà largué la moitié de la salle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Alex? Tu vois, intellectuellement parlant, on pourrait expliquer tout ça. Mais ces phrases-là nécessitent l'homme de foi que tu es. Et j'irai même plus loin. Ces paroles-là parlent aux chrétiens, à ceux qui ont vraiment dit, Christ, je t'accueille dans ma vie. Parce que c'est compliqué à comprendre. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. C'est quoi ça encore, le lieu très saint? Et on continue, grâce au sang du sacrifice Jésus. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'impossible avant, et maintenant, grâce à Jésus, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de possible pour moi. On peut mettre le verset suivant. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant. À travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. On peut aller ensuite. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le fondement de notre foi est donc lié, profondément lié à Christ. Par lui, il y a quelque chose de nouveau. Par lui, si je m'unis à lui, d'accord, je ne vais pas vous refaire la prêche de la semaine passée, mais étant uni à lui, j'ai accès à quelque chose de totalement nouveau. Le premier verset nous dit, nous avons une pleine liberté. Et ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu te sens pleinement libre dans ta foi en Christ? Parce que si tu ne te sens pas pleinement libre dans ta foi en Christ, c'est que déjà, tu ne vis pas la profondeur de ce passage-là. Pour entrer dans le lieu très saint, le lieu très saint, c'est quoi? C'est la demeure du Dieu Tout-Puissant. On a entendu la profondeur du cœur du Père. Si tu veux connaître la profondeur du cœur du Père, ça se trouve uniquement dans le lieu très saint. Ça ne se trouve pas sur Internet, ça ne se trouve pas sur toutes les prédications que tu peux écouter sur YouTube. Ça ne se trouve pas au boulot, ça ne se trouve pas dans ta relation avec ta femme, ça se trouve dans le lieu très saint, dans ton endroit personnel avec Christ, là où tu vas à sa rencontre. Voilà pourquoi chez les évangéliques, on parle d'une foi personnelle, d'une foi qui est basée sur une relation avec Dieu, parce que Christ nous permet cette relation. Mais si tu te soustrais à cette relation, ta foi chrétienne n'a plus beaucoup de force et plus beaucoup de puissance. Si tu n'as pas cette profondeur, cette capacité à entrer dans le lieu saint, que ta seule manière d'entrer dans le lieu saint, c'est de mettre 25 louanges, d'aller faire un footing, un jogging, un machin, un truc, avant même de rentrer dans... C'est que tu n'as pas encore connu le Père. Moi, quand je vais voir ma femme, je la regarde, on se voit et tout se passe dans les yeux, tu vois. Avec Dieu, c'est simple. Et on a parfois tendance à complexifier les choses. Il faut que je prie 2 heures par jour, il faut que je fasse ceci, que je fasse 12 jeûnes... que je donne autant, que je fasse une action de grâce. Il y a toutes sortes de conditions compliquées pour atteindre le lieu très saint. Mais moi, ce n'est pas ce que je lis. On le voit bien que c'est un chemin vivant. Ce n'est pas au travers de la religion, de ce qu'on va faire, qu'on peut atteindre le lieu très saint. Et on va voir les conditions. À partir du verset 22, on a les conditions. Approchons-nous donc de Dieu. Déjà, c'est le désir de s'approcher de Dieu. Si tu n'as pas le désir de t'approcher de Dieu, déjà, Alex, comment on fait? Est-ce que tu as envie de t'approcher de Dieu? Est-ce que déjà en toi, tu as le désir de connaître Dieu? Parce que si c'est le cas, je peux t'aider, mais si ce désir n'est pas en toi, ben on s'arrête là, parce que je ne pourrais rien faire pour toi. Ce désir doit venir de toi. Ce n'est pas le désir d'Alex que toi, tu touches le cœur du Père. C'est ton propre désir de toucher le cœur de Dieu. As-tu le désir de connaître le cœur du Père? Amen. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Je m'approche, ça veut dire que la première chose, c'est une démarche de ma part. Et après, c'est un état de cœur, un cœur sincère. Voilà pourquoi je vous ai dit, savoir faire des introspections de nous-mêmes est excellent. Parce que si tu ne sais pas dire si ton cœur est sincère ou pas, c'est compliqué. Un coup c'est oui, un coup c'est non, tu n'arrives pas à sentir quelles sont tes émotions, qu'est-ce que tu vis en ce moment, quelle est ta pensée, c'est fluctuant. Donc pour t'approcher, c'est comme si tu n'étais pas sur la bonne fréquence, tu vois. Avec Dieu, c'est la fréquence 101.3, énergie, vous connaissez? Mais toi, tu es à côté. Tu es 101.2, 101.1, puis le lendemain, tu es 100, et puis tu râles. Et après, tu dis, de toute façon, l'église, ça m'apporte rien, Dieu, ça m'a... Mais tu n'es pas branché sur la bonne fréquence. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Branche-toi sur la bonne fréquence. Apprends-nous avec un cœur sincère. C'est-à-dire que Dieu, il te dit, peu importe ton état actuel, que tu sois chrétien depuis 10 ans, 5 ans, que tu viens de le rencontrer, peut-être que même tu ne le connais pas encore, mais tu le cherches, mais viens avec un cœur sincère. On dit, sincère, c'est-à-dire qu'on dit, Dieu, je viens comme je suis. Par contre, ma démarche est sincère. Je crois que tu peux me répondre, je crois que tu peux me parler, je crois que je peux venir dans ta présence. Et à partir de là, moi, je vais te dire, je suis sûr que si tu viens dans cet état-là, Dieu va te parler. J'en suis convaincu. Il y avait un jeune, une fois, il était assis à la place de Samuel, et puis il était là, et puis il est venu à l'église, et vous savez, il est enfant de personnes vraiment qui n'aiment pas Dieu, cartésiens, de façon la religion et machin, et ceci et cela. Et donc, sa copine, elle l'invite à l'église, parce qu'elle est d'une famille chrétienne, elle était elle-même chrétienne, elle aime Dieu. Et puis, il vient là, et puis il était dur, mais qu'est-ce qui était dur? Et il commence à se moquer, machin, et pourquoi ceci et cela. Je lui dis, tu sais quoi, moi, j'ai rien à te prouver. Et puis là, le Seigneur, il me donne une parole pour lui. Et je dis, par contre, tu sais, toi, tu vas prendre une claque avec Dieu. Tu vas prendre la claque de ta vie. Tu ne vas pas savoir ce qui t'arrive. Un an plus tard, il pleurait comme un bébé ici parce que Dieu était en train de le toucher, de le terrasser. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un Dieu créateur du ciel et de la terre et qui était tout petit et que ses raisonnements étaient tout petits face à lui. Et que, on ne rigole pas avec lui. Mais à partir du moment où il a décidé, peut-être je vais écouter, peut-être je vais tendre l'oreille, peut-être je vais essayer de trouver Dieu. Il a été sincère, Dieu l'a touché. Dieu a changé son entendement, l'a transformé. Ce n'était pas juste, oui, j'aime bien aller à l'église parce qu'il y a une bonne ambiance, Sandy, elle chante bien, elle prend des chants sympas. Ce n'était pas juste ça, c'était vraiment, il y a quelque chose en lui qui s'est produit. C'est profond, n'empêche. Vous voyez, ce n'est pas juste Jésus, une philosophie. Non, c'est plus que ça. Ensuite, avec la pleine assurance que donne la foi. Une fois que la foi est en moi, je viens avec assurance devant Dieu. Dieu, mon Père, je suis là. Salut, papa. Je n'ai pas peur de mon Dieu. Le cœur, c'est quoi la troisième condition? Le cœur, d'abord un cœur sincère, une pleine assurance que donne la foi. Troisièmement, le cœur purifié. Purifié, qui peut faire ça? Il n'y a que Jésus qui te purifie. C'est lui qui te sanctifie. C'est son œuvre à la croix qui te libère. Waouh! Merci Jésus. De toute mauvaise conscience, j'aimerais te dire, si tu as encore des choses du passé qui t'enquiquinent et que tu arrives au culte le dimanche matin et que t'es chargé parce qu'il y a quelque chose qui dans ta vie te gêne, ça c'est encore une conscience qui est mitigée. Et là tu te mets à ta place, tu dis Seigneur, ok, je mets ça de côté parce que je sais que si je ne mets pas ça de côté, je ne vais pas réussir à rentrer dans le lieu saint. La Bible elle dit tout ce qui est passé est passé. Et le corps lavé d'une eau pure. Alors, ça veut dire quoi ça encore une fois? Le corps lavé d'une eau pure. Je vais aller sous ma douche. Chut, je suis allé au culte. On va faire une nouvelle doctrine. Alors là, vous rentrez tous chez vous. Vous prenez une douche bien froide et vous lavez votre corps d'une eau pure. C'est pas ça. Là, on parle de quoi? On parle de notre baptême. où on s'est associé, où on s'est uni à Christ devant tous les hommes. Et on a dit, moi, eh bien, je soutiens, j'épouse la cause de Christ. Et je fais partie maintenant de l'Église de Dieu. C'est profond. Et quand je passe par les eaux du baptême, effectivement, tout ce qui est passé est passé. Et quand la culpabilité, elle revient, si mon engagement était sincère, je prends position, ça suffit maintenant. Ça marche ? Alors, on a lu ce passage qui nous disait que le voile est déchiré, d'accord ? Et il faut imaginer que t'approcher de Dieu, aujourd'hui, pour Dieu, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, c'est facile. Il n'y a aucun obstacle au fait d'approcher Dieu. Il a ouvert les portes, il a dit « Jésus, c'est le chemin, c'est ton choix de prendre ce chemin-là ». Et pourtant, on constate que beaucoup ont du mal à suivre Christ. Et je réfléchissais à ça, et puis je me suis dit « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui revient tout le temps ?» Et en fait, ce qui revient tout le temps, c'est comme si nous-mêmes, on remettait un voile devant notre vie. Jésus a arraché le voile, mais nous-mêmes, on va dire, on vient devant Dieu et on dit « Je ne suis pas digne. J'ai beaucoup trop péché. Ça ne va pas. » Et alors, je pensais à mes enfants. Vous savez, mes enfants, quand je les reprends, parce qu'il faut les reprendre, là, ce week-end, j'avais un enfant, je dis « C'est pas possible. Ça m'agace, cette attitude-là. Comment je peux faire parce que je ne comprends pas pourquoi il y a cette réaction-là. » Tu vois, c'est... Alors, donc je remets les choses dans leur contexte. Hop, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ça, c'est pas normal, tu es têtu. Je dis, tu sais, si moi, ton père, je ne te dis pas que tu es têtu, il n'y a personne qui te le dira. Mais pourquoi je te le dis ? Parce qu'il y a une différence entre être têtu et être persévérant. Qu'est-ce que tu choisis ? Têtu ou persévérant ? Têtu, ça veut dire que tu n'as pas raison, tu fonces dans le mur, tu t'écrases. Persévérant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est difficile, tu prends tes outils, tu démolis le mur, tu avances. Une grosse différence. Alors, soit tu choisis têtu ou persévérant. Là, c'est têtu. Donc, je te laisse réfléchir. Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Non. Ben, je dis, tu vois ce qui va se passer. Je vais partir, tu vas pleurer. Je vais te laisser pleurer et je reviens après. Ça pleure, machin, gna gna gna, gna gna gna. Je dis, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est pas 5 minutes. Hein. C'est une soirée, ça vous prend une soirée. Hein. Vous n'avez pas prévu ça. L'éducation, ça n'attend pas. Ceux qui veulent des enfants, préparez-vous. Hein. Beaucoup de vos soirées vont sauter. Ah, je dis, c'est pas possible. Alors, je laisse les choses décanter et réfléchir. Je dis, bon, maintenant, tu as compris ou pas ? Moi-même, je dis, c'est pas possible. Comment je vais lui faire comprendre ça ? Et donc, je dis, bon, Seigneur, donne-moi les mots, donne-moi aussi de comprendre ce qu'il vit, voilà. Et puis, voilà. Et j'arrive et je dis, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu as compris ? Je dis, écoute, viens faire un câlin à papa. Viens faire un câlin à papa. Mais tu sais, papa, de toute façon, je suis nul. Je dis, oh, on s'arrête tout de suite. On s'arrête tout de suite. Est-ce que j'ai dit que tu étais nul ? Ah ben non. Je dis, je n'ai jamais dit que tu étais nul. Ce que je t'ai dit, c'est que ton attitude n'est pas correcte. Et si je ne te le dis pas, ça ne changera pas et c'est bon pour toi. Je dis, moi, je suis ton papa, je dois t'aider à évoluer et être la meilleure version de toi-même. C'est mon rôle. Donc, je dois te dire les choses. Donc, tu es, et là, j'ai dû répéter, tu es ci, tu es ça, tu es ça. Tu es intelligente, tu es ci, tu es ça, tu es machin. Mais je vois que tu n'utilises pas, tu choisis de persévérer dans quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que tu comprends maintenant ? Ah oui, allez, fais un câlin à papa. On va prier maintenant. Et ça se passe super bien. Et là, il y a une compréhension. Et c'est comme nous, parfois, en fait. Je me suis rendu compte, on est comme ça avec Dieu. On débarque devant Dieu. Et parfois, on le boude. Ouais, Seigneur, de toute façon, ça ne se passe pas dans ma vie, machin. On commence à bouder Dieu, on boude l'Église, on boude les frères et sœurs, on s'isole, on ne veut plus les voir parce qu'on se dit, de toute façon, Dieu, il ne fait pas ce qu'il faut dans ma vie. Et vous voyez, le voile est déchiré. Il n'y a aucun obstacle physique à suivre Dieu. Et pourtant, on se met nos propres obstacles. Ça va être la honte. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte, je ne vais pas en parler, je m'isole. Je mets un voile entre moi et Dieu. Je me sens coupable de ce que j'ai fait. Je mets un voile entre moi et Dieu. Jésus tend la main, il dit, viens me faire un câlin. Viens, ce n'est pas grave. on va régler le problème ensemble. Par contre, il faut que tu sois transformé. Je dois te dire que ça, c'est un péché, que ça, ce n'est pas correct, qu'il faut que tu arrêtes de t'apitoyer. Viens faire un câlin à papa, je vais t'aider. C'est ce qu'il fait notre père, non? Et nous, non, mais tu sais, je ne suis pas assez bien, j'y arrive pas. On met un voile. On est tous comme ça ou il n'y a que moi? On met tous des voiles devant notre relation avec Dieu. Et tous selon notre caractère. Je ne suis pas capable. Parfois, c'est la fierté. Seigneur, je vais y arriver tout seul. Je n'ai pas besoin de toi dans cette situation. De toute façon, moi, je suis un winner. Alors, tu fonctionnes, hein, ça, ce n'est pas un problème, mais il n'y a pas Dieu dans tout ça. Tu vois, ce n'est pas que les choses négatives. Hein. Parfois, c'est toi, c'est dans ton zèle, dans ton tempérament, tu abats les murs, mais il n'y a pas Dieu. Il y a donc une barrière invisible que tu peux mettre toi-même entre ta relation personnelle, entre toi et Dieu. Ça marche ? Vous vous souvenez de Jonas ? Jonas, il a été fort pour mettre un voile entre lui et Dieu. Moi, les habitants de Ninive, c'est nos ennemis. Premièrement, tu me demandes d'y aller. En plus, si j'y vais, c'est comme c'est nos ennemis, bah, je risque de mourir. Et en plus, je ne les aime pas. Tout ce que je veux, c'est qu'ils meurent. Vous voyez, c'était son état de cœur. Il n'y a pas tort. Est-ce qu'il avait tort, Jonas ? Il n'y a pas tort. Sauf que Dieu, il dit, j'ai un plan pour eux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un voile. Je ne t'écoute pas, je fais autrement. Dieu ne l'a pas lâché parce qu'il a besoin de lui. Mais vous voyez, il a mis un voile, le voile de la fierté, là. Ce sera ma manière. Et de toute façon, c'est comme ça que tu dois faire Dieu. Il lui donne des ordres. Toi, tu as déjà donné des ordres à Dieu. Seigneur, moi, je veux tel travail. Il va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu te dépêches, Seigneur, s'il te plaît, parce que je dois nourrir ma famille. On est bon, hein. On a eu dans un autre contexte, dans l'amoindrissement, on a eu Moïse. Moïse, qui nous dira quoi ? Il nous dit, en Exode 4, verset 10, « De grâce, Seigneur, il parle à Dieu, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. » Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. Il lui rappelle les choses en plus, tu sais. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mais Moïse rétorqua, de grâce, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Il y a des Moïse ici. Jésus, donne-moi ta volonté, parle-moi. Dieu te parle. Sauf que toi, quand tu lui demandes ça, tu vois quelque chose en ligne de mire. Tu dis, moi, j'aimerais faire ça, tu vois. Puis Dieu dit, voilà. Et il t'emmène où ? Dans le chemin de tes incapacités, de ce que tu ne sais pas faire. C'est facile d'être que dans les choses qu'on aime bien. Vous savez, moi, je suis devant vous, je prêche l'évangile. Vous pensez que j'ai voulu un jour prêcher l'évangile ? Moi, j'ai dit tout sauf ça. En plus, j'étais timide. Un grand timide. Je ne regardais pas les gens dans les yeux quand j'étais petit. Mais Dieu m'a mis dans le chemin de mon incapacité. Dire, écoute, mon gars, tu vois, tout seul, tu n'y arriveras pas. Mais avec moi, ça va être différent. Tu seras obligé dans ce chemin-là de compter sur moi. Et peut-être que je ne t'enlèverai pas tes faiblesses. Parce que si je te les enlève, tu n'auras plus besoin de moi. Et moi, je veux que tu comptes sur moi, qu'on soit unis l'un avec l'autre, qu'on travaille ensemble. Alors quand tu reviens à Dieu, tu dois bien noter ça. Quand tu reviens à Dieu, quand tu viens dans le lieu très saint, c'est parce que tu t'attends à la pensée de Dieu, tu t'attends à sa présence. Et quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu parle, Dieu te répond, Dieu peut-être te dit autre chose, voilà, c'est lui que ça regarde, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui règne, mais tu dois t'attendre à ce que Dieu ne te dise pas forcément ce que tu as envie d'entendre, mais tu dois savoir que quand tu viens à la rencontre de Dieu, Dieu te pardonne de ta faiblesse, il est content parce que tu as osé passer ce voile invisible, mais qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Note bien ça, il te pardonne, mais ensuite il te missionne. Et là, il va te donner une mission. Et la question, c'est, vas-tu accomplir ta mission ? On va prendre Éphésiens 2, versets 8 à 10. Donc, c'était notre passage principal de la semaine passée. On va juste lire trois versets. Vous allez voir qu'avec Dieu, il y a des choses intéressante. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que tu es, tu le dois à Dieu. Car par notre union avec Christ, c'était le sujet de la semaine passée, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Intéressant. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est ce verset-là. Il nous a créé une vie riche d'œuvres bonnes. Si je veux suivre Christ, ça va produire en moi des actions, des choses riches d'œuvres bonnes. Et ce qui nous intéresse encore plus particulièrement, préparer à l'avance. Ça veut dire que dans ta vie, tu as deux chemins. Si tu choisis d'être uni à Christ et de le laisser agir dans ta vie, lui, tu entres dans ta destinée, la destinée où Dieu a prévu des choses d'avance pour toi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si tu choisis l'autre chemin, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas fonctionner, il n'y a aucun problème, mais ce sera ton destin personnel que tu vas créer entre tes mains. À chaque fois, entre ces deux lignes-là, il y a des ponts, il y a des passerelles. Tu peux revenir sur le plan de Dieu initial. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu a préparé des choses d'avance pour toi. Est-ce que ça t'intéresse, ces choses-là? Moi, ça m'intéresse. Je me dis, Seigneur, en ce moment, voilà, ma femme, elle me dit, Alex, j'ai besoin de tes objectifs pour les 5 ans à venir. Elle est en train de m'embêter, là. Elle m'embête. Elle dit, tu sais, moi, chérie, elle me regarde comme ça, elle dit, tu sais, moi, chérie, si tu me dis que tu vas travailler encore plus et que tu vas gagner plus d'argent, ça me va très bien. Et limite, c'est ce que je préfère. Mais si tu me dis que tu vas travailler encore moins et être encore plus disponible pour l'Église, ah, ça me va encore plus. C'est parce que j'ai envie, financièrement, mon portefeuille n'a pas envie, mais je sais que c'est ça que Dieu veut. Alors maintenant, tu me donnes tes objectifs pour les 5 ans à venir. Elle me met la pression, là. Tu vois, parce qu'elle voit qu'on pense au toit, elle voit qu'on pense à que je pense à plein de trucs. Elle me dit, ça va pas. Il faut recentrer. C'est bien les femmes, hein. Parce qu'à un moment donné, elles te connaissent, tu vois. Un regard, une émotion, elle sait ce que tu penses. Moi, ma femme, je la connais, tu vois. S'il n'y a pas les enfants, qu'on n'est qu'à deux, et elle me regarde et elle me dit, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, chérie, on va au resto. Parce que je sais ce qu'elle veut. On va au resto. Ça, c'est la bonne réponse. Ça veut dire qu'elle a besoin d'un petit moment avec son mari. Messieurs, écoutez vos femmes. Les cartes bancaires vont chauffer, là. On veut être unis à Christ jusqu'à sentir le cœur du Père. De dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y en est pour mon Église? Quel est ton cœur? Quel est mon investissement dans mon Église? Qu'en est-il de ma vie dans mon couple? Qu'en est-il de ce que je dois faire avec mes enfants? Comment je dois gérer la situation? Voilà, dans tous les aspects de ta vie, ce qui est spirituel devient tout à fait charnel et très concret. Seigneur, comment je dois agir? Comment je dois agir avec mon enfant quand il y a une réaction comme ça? Comment je dois agir avec mes finances? Jésus, donne-moi ta pensée. Si tu n'es pas uni à Christ, tu vas aller voir ton pasteur. Je fais comment? Donne-moi une notice. Ben, je ne peux pas te donner une notice. Il y a des valeurs, vous avez entendu la semaine passée, on a des valeurs qui nous guident, qui sont des bornes. Mais ensuite, Dieu s'occupe chacun personnellement de nous. Les choix que tu prendras ne seront pas forcément les miens pour ma vie. Mais en attendant, il y a des valeurs communes. De chercher Dieu, de prier, de vivre la communion fraternelle. Ça, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de prier 2 heures pour savoir que c'est des bonnes choses pour nous. Mais personnellement, il faut pouvoir être uni à Christ et tu croises le regard de Dieu, tu dis « Ok, j'ai compris, on va au resto. Ok, j'ai compris, il faut que je me calme. Ok, j'ai compris, il faut que je passe plus de temps dans ta présence. Ok, j'ai compris. » Je parlais à quelqu'un ce matin qui m'a dit « Tu vois, je sens que Dieu m'appelle à ça. » J'ai dit « Ok, maintenant fais attention parce que si tu sens que Dieu t'appelle à, tu as toujours le choix de ne pas le faire. Si tu ne le fais pas, tu vas passer à côté de quelque chose. Si tu le fais, Dieu va t'honorer, va te bénir. Parce qu'il y a quelque chose prévu pour toi au bout du chemin. Sauf que c'est la foi. Et pour la transformation, il faut être capable de tout laisser derrière nous. Ça roule ? Alors, le troisième point, c'est que Dieu, on a chanté ce matin, on a dit Dieu, toi qui déplace les montagnes. C'est ça qu'on a chanté, oui ? Je ne me souviens plus bien de la phrase, mais qui déplace les montagnes. La foi est vivante. La Bible nous dit quoi ? Nous dit que Jésus nous a dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, eh bien, tu es capable de déplacer les montagnes. Ce qui me rassure, moi, dans cette parole-là, c'est que Jésus dit bien la foi comme une petite chose. Il ne dit pas, il faut que tu aies une foi vraiment qui touche le ciel pour faire ceci ou cela. Il te dit, le peu de foi que tu as, eh bien, je peux déplacer les montagnes de ta vie. Donc, ça me rassure. Parce que ça me dit, Alex, peut-être que tu es un petit peu en dessous en ce moment, mais là, il suffit d'un petit peu avec Dieu, et le peu qu'il y a, il s'en nourrit, et il change les circonstances. Donc ça, c'est libérateur quand même. Tu vois, c'est pas, faut aller en pèlerinage, prends 5 jours sur la côte d'Opale à réfléchir à ta vie. Non, c'est pas ça. C'est Seigneur, tu vois mon état, je m'attends à toi, et tu vois le peu que j'ai, je suis sincère Seigneur, le peu que j'ai, je te le donne. Et avec le peu de choses, tu vas faire de grandes choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui déplace les montagnes, c'est ta foi. La seule chose qui va déplacer les montagnes dans ta vie, c'est ta foi. Tu peux faire beaucoup, tu peux essayer de t'en sortir dans beaucoup de domaines, et c'est bien, il faut être courageux, tout ça. Mais ce qui va déplacer les montagnes, Jésus nous dit, c'est la foi. J'ai besoin que ma foi soit profonde et qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. C'est Paul qui nous dit quoi ? Il nous dit 1 Corinthiens 2, verset 4 à 10, il dit « Mon enseignement, ma prédication, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Moi, je dis souvent, tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu ne connais pas Christ, tu vas vivre quelque chose dans ta vie et ton copain il va dire « Ouais, mais ça, tu sais, ça s'explique comme ci et comme ça. » Il va chercher des explications alors que toi, tu sais que c'est ta foi qui a produit cette chose-là. Moi, quand j'ai commencé la menuiserie, l'ébénisterie, j'étais complètement cassé du dos. Et quand j'ai mis ma main sur la porte, le Saint-Esprit m'a dit « C'est là que tu vas travailler. » Et au bout d'un an, j'ai été cassé. Mais cassé. Je disais « J'ai mal. J'avais mal au dos. » Et alors, je devais faire des examens, et puis on me dit, on va peut-être vous faire une infiltration. Vous savez, tout le processus médical, qui est merci à la médecine, qui nous aide, qui nous soulage, qui nous accompagne. Et la médecine était arrivée à ses limites. Monsieur, vous avez votre dernier disque qui est de moitié. Vous avez, j'avais quoi, 22 ans. Vous avez 22 ans. Il faut changer de métier. Et là, j'ai un conflit. J'ai un conflit entre ma foi et ce que la science, la médecine me dit. Et là, j'étais pas bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ? Tu m'as parlé, c'était puissant. J'ai mis ma main. La puissance du Saint-Esprit est tombée. C'est là que tu vas travailler. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je me parle beaucoup comme ça. C'est très fort. C'est d'un coup, boum, tu vas faire ça. Et là, je dis, c'est pas possible. Et je dis à Chanel, écoute, on va aller faire les examens. Et là, je me mets à prier. Je dis, Seigneur, les choses sont simples. Tu m'as dit ça, c'était clair. Je ne vais pas prier longtemps. Quand je vais aller faire mon échographie, je n'aurai plus rien. C'est la seule prière que j'ai faite. Et donc, on est allé. Je vais faire mon échographie. Et donc, pas échographie, mon IRM. Et donc, il prend la radio d'il y a 6 mois. Et il prend la radio et il dit, monsieur, mais il n'y a plus rien. Vous n'avez rien au dos. Je me suis mis à pleurer comme un gosse devant le médecin. J'ai dit, merci Seigneur. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dans mon métier. Oui, j'ai d'autres douleurs. Oui, mon corps souffre. Oui, c'est encore difficile. Mais plus jamais cette douleur-là. Plus jamais j'ai eu mal au même endroit. Parce que Dieu m'a guéri. Ça, c'est la puissance de Dieu. Tu racontes ça à ton voisin ? Mais non, tu sais. Tu racontes ça à lui ? Mais non, moi je sais qui est mon Dieu. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais en quoi ma foi est fondée. En Jésus-Christ, celui qui déplace mes montagnes. Alors, tu as peut-être des montagnes dans ta vie. On a prié la semaine passée pour ceux qui étaient éloignés de Dieu, tu puisses te retrouver proche de Dieu. Parce que tu sais, moi, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de puissance dans mes mains. Je ne suis pas un gourou. Par contre, quand je prie pour toi, je peux t'assurer que je prie avec foi parce que je connais mon Dieu. Mais ce qui est important, c'est ta foi, toi. Ce n'est pas la mienne. C'est le petit grain qui t'appartient, ce que Dieu t'a donné, le petit don que Dieu t'a donné. Il ne veut pas que tu l'enfouisses. Il veut que tu le libères pour connaître sa puissance. Sa puissance dans ta vie. Peut-être que tu es lié par toutes sortes de péchés. Cherche la puissance de Dieu dans ta vie. Relis, lis ces passages. Lis ce passage, les conditions. Il faut que je vienne avec un cœur sincère. Tu te poses la question, est-ce que mon cœur est sincère, Seigneur ? Il faut que je sois purifié. Seigneur, est-ce que vraiment je suis purifié ? J'ai l'impression que j'ai de la culpabilité. Seigneur, ok, je m'occupe de la culpabilité maintenant. Tu vas étape par étape. Est-ce que j'ai vraiment envie ? Il faut te poser ces questions-là. Parce que si tu ne te les poses pas, tu es à tout vent. Un jour, j'ai un frère qui me dit ça, je suis ça. Un jour, j'en ai un autre qui me dit ça, je suis ça. Ensuite, je vais demander la prière à lui. Ensuite, je vais demander la prière à lui. Moi, je dis, mais arrête de courir partout. Va dans ta chambre. Cherche Dieu. Pourquoi moi, je dois le faire pour toute l'Église ? Je le fais déjà pour moi, c'est déjà long. Je prie beaucoup pour vous. Mais la foi est personnelle. Profondément personnelle. Elle n'est pas seule. Attention, la foi n'est pas seule dans ma chambre devant ma télé. Ça se vit en communion. Parce que Serge, il va dire, écoute Alexis, il s'est passé ça dans ma vie, il va être encouragé. L'autre, il va dire, écoute, il s'est passé ça dans ma vie, il va être encouragé. Et moi, je vais avoir du bonheur de savoir que Dieu t'a béni. Et ça va encourager ma foi. Je vais dire, c'est possible pour moi. Sauf que sa bénédiction, ce n'est pas la mienne. Moi, j'attends la mienne. Mais sa foi m'encourage. Ça, on a prié pour Samuel, mercredi. Il pleurnichait un peu, hein, mercredi. Un peu beaucoup. Je dis, bon, toute la réunion de prière, elle va tourner autour de ses problèmes, ça ne va pas. je t'embête. Ouais. Donc on a prié longuement pour lui. Je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis, et il m'appelle mardi, tu sais, j'ai vu Dieu à l'œuvre, le comptable il m'a appelé, je suis béni, machin, il pensait à fermer son entreprise et tout ça. Si vous voulez le témoignage, vous allez le voir, il vous expliquera. Mais vous voyez ce que je veux dire, on est content, je suis content parce que Dieu l'a béni, il m'appelle Alexis, c'est super, on a prié, l'église a prié, j'ai eu un miracle. C'est pas beau ça ? Mais si t'es pas concerné par sa vie, ouais bon, je passe à autre chose. Moi c'est la louange. Moi c'est ceci. Tu dois être concerné par ce qui se passe dans la vie de tes frères et sœurs. Parce que c'est dans la vie de tes frères et sœurs que tu vois la gloire de Dieu. Et ensuite tu dis, oh cette gloire, moi aussi je veux en bénéficier. Ça te va ? Amen. Josine, si tu peux venir ici donner ta parole. Josine, elle a eu une pensée pour nous. Alors j'aimerais que tu puisses la donner. Ce sera la conclusion de ma prédication. Que tu puisses la prendre à cœur. Alors elle recherche son verset. Tu sais plus ? Bah, la pensée, c'était la pensée.
En fait, pendant le temps de louange, le Seigneur m'a montré plusieurs images. En fait, c'était des prisons. Il y avait plusieurs prisons. Et la pensée de Dieu, c'était qu'en fait, il y en a, en fait, on est dans des prisons émotionnelles. Il y en a, c'est des prisons de, par exemple, la maladie. Il y en a d'autres, ça va être les inquiétudes. Et en fait, le cœur de Dieu, c'était que, bah, des fois, quand on est dans l'inquiétude, on va passer au murmure. Mais ça, c'est pas le cœur de Dieu. En fait, Dieu veut qu'on soit dans la louange et dans, voilà, la reconnaissance. Et du coup, le Seigneur, enfin, mettait vraiment ce verset dans, je crois que c'est Ésaïe 30:15, où dit que c'est dans le calme et le calme et le repos sera ta force et dans la tranquillité. Et, enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'était vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous de pas en fait être face à nos montagnes. Et la parole ce matin, je pense qu'elle nous l'encourage aussi. Et j'avais vraiment, je voyais comme des gens qui devaient danser, sauter devant leurs problèmes. C'est-à-dire que bah en dansant, en sautant, tu prends position. C'est aussi ta responsabilité et que bah après Dieu fait le reste. Il est toujours là. Voilà.
Amen. Alors on va prier 2 minutes, ensuite on passera aux annonces et on vous donnera aussi quelques recommandations pour l'AGAP du 8 juin. J'aimerais prier pour ces du 9 juin, pour ces pensées-là. Si tu peux fermer tes yeux avec moi, Seigneur.